Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, so let's go, Marco.
Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour, madame, bonjour, mademoiselle, bonjour, monsieur.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Mais laisse-moi une gueule d'atmosphère.
Voilà, la musique.
Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot.
Là, il a marqué un point.
C'est de dire si dans ma vie, j'ai entendu des conneries. Il est comme ça, jamais.
À l'affiche ce soir, c'est l'histoire d'un coureur cycliste philosophe, surnommé par le quotidien Libération, le Nietzsche dans le guidon. On adore. Ce soir, je pédale, donc je suis. C'est la vie de Guillaume Martin, le vélosophe. Quelque part entre le temps et la durée, voici la 28e étape de notre grand safari au pays de la culture de masse.
Tu nous prends pour des bourris ?
Oui, ça,
c'est un excellent
burger. Winter is coming.
Cette semaine arrive le printemps et avec lui, c'est le retour des grandes classiques, comme on dit, les grandes classiques cyclistes. On connaît leurs noms, Milan-San Remo, Paris-Roubaix ou encore Liège-Bastogne-Liège. Des courses épiques qui parfois ont été théâtre de tragédies grecques et où s'est nichée la pensée des plus grands philosophes. Et alors ce soir, pour ausculter cette philosophie du vélo, ils seront deux invités au micro d'Inter. Tout d'abord, le cycliste penseur et auteur de ce très bon essai intitulé « Socrate à vélo », Guillaume Martin, bonsoir.
Bonsoir.
Et soyez le bienvenu. Et puis à vos côtés, c'est un écrivain rare. Plus personne n'écrit comme lui sur Zidane ou sur le cyclisme. Sa littérature impressionne par son souffle et son érudition. Faites-moi confiance, je suis ravi de le revoir à ce micro. Philippe Bordas, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous. Et puis juste avant les forçats de la route, nous accueillerons le troubadour des actrices, le Dominique Besnier. Dominique, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, qui est à l'affiche ce soir ?
L'Européenne de Los Angeles est cherchée. Jacqueline Bisset.
Et oui, Jacqueline Bisset. Et enfin, juste avant 19h, bien sûr, le Give Me Five signé Joy Raffin. Salut Joy.
Salut Colin, bonsoir à tous.
Le programme.
Eh bien, un triplé en Italie, un coup franc en Bulgarie et l'Europe à vélo.
Eh bien, voilà. À tout à l'heure. Surtout, n'ayez pas peur et soyez les bienvenus dans l'œil du tigre.
L'œil du tigre. Philippe Colin sur France Inter.
Alors, ce soir, on commence avec la Bérésina du football français en Coupe d'Europe. Nous sommes donc le 17 mars et rideau. Nous n'avons plus un seul club en compétition. Ça ressemble à quand j'étais gamin dans les années 80, mais à l'époque, on dépensait 1000 fois moins de pognon pour avoir la loose. Allez les enfants, à l'année prochaine, voici le flashback.
Oh là là, aïe. Oh là 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 là.
La marche était trop haute.
Eh oui, malheureusement, l'Olympique Lyonnais n'a pas fait le poids hier soir face au FC Barcelone en 8e de finale retour de la Ligue des Champions.
Je pars comme une vieille chaussure oubliée dans le bowling. Je pars comme un... comme un va-nu-pied.
Une défaite, une lourde défaite, 5 buts à 1. Pourtant, les Lyonnais y ont cru à 2-1 pendant une vingtaine de minutes avant de finalement eh bien, subir la foudre des attaquants catalans et de Lionel Messi, auteur de 2 buts et 2 passes décisives.
Je ne parle. En tout cas, la Coupe d'Europe, on peut se l'accrocher au fion. Ah là là.
Il n'y a plus de club français en Coupe d'Europe de football.
Ouais, ça y est, c'est fini. Le dernier en lice, le Stade Rennais, s'est fait sortir donc hier soir par Arsenal en 8e de finale de l'Europa League.
Je dis stop.
Les Bretons pensaient pourtant avoir fait le plus dur en s'imposant 3-1 la semaine dernière au Roazhon Park.
Croyez-moi, vaut mieux renoncer puis se faire une raison. On leur a fait un beau rêve, quoi, c'est tout.
Mais ils y sont totalement passés à côté de leur match hier soir et se sont logiquement fait éliminer par les Gunners en encaissant un cinglant 3-0.
Ben, on vous dit au revoir et... Et désolé pour le dérangement.
Oui, la vie est cruelle avec le foot français. Mais rassurons-nous, car après la Bérésina, voici Austerlitz. Après la déroute, voici le triomphe. Heureusement qu'il est là. C'est un phare dans la nuit. C'est l'heure du Dominique Besnier.
C'est fou la vie, hein.
Ce soir, Dominique, c'est une actrice entre deux mondes.
Ce soir, notre vedette de l'écran est l'une des plus belles actrices européennes du cinéma américain. Mademoiselle Jacqueline Bisset, que l'on peut découvrir actuellement dans le rôle de la mère de Sarah Jessica Parker dans Here and Now de Fabien Constant, d'origine française. Fille d'un médecin écossais et d'une mère avocate d'origine française, Jacqueline Bisset a été élevée dans un milieu aisé. Elle fait des études dans une école privée et prend des cours de danse. À 16 ans, elle intègre le lycée français de Londres, puis débute le mannequinat. Ses amis l'encouragent à tenter sa chance au cinéma et son joli visage lui permet d'obtenir un petit rôle dans Le Knack ou Comment la voir en 1964, le film phare du London Swinging avec Jane Birkin et Charlotte Rampling. 2 ans plus tard, Jacqueline fait une apparition comme figurante dans Cul-de-sac de Roman Polanski.
Et puis, elle est repérée par la Fox.
Oui, dans Voyage à deux de Stanley Donen, cinéaste mythique récemment disparu. Jacqueline Bisset signe chez eux un contrat de 7 ans. Elle tourne avec les monstres d'Hollywood, Frank Sinatra dans Le Détective, Steve McQueen dans Bullitt, Paul Newman dans Juge et Hors-la-Loi. Pour les producteurs américains, sa magnifique beauté n'est alors que le faire-valoir de la gente masculine des studios, servant à souligner la virilité et le charisme des acteurs. Mais Jacqueline n'est pas dupe. Elle sait que la beauté peut être un piège éphémère. En 1973, pour son plus grand bonheur, François Truffaut lui propose un rôle dans La Nuit américaine. Il s'agit là de sa 2e expérience en français dans un film où elle incarne une star anglaise de retour après une sévère dépression. La première étant La Promesse de Paul Feder.
Et puis arrive Le Magnifique.
Oui, Jacqueline Bisset rencontre en effet la consécration française avec Le Magnifique de Philippe de Broca. Son double rôle ambigu l'amène à l'apogée de la séduction. Ah, ces apparitions torrides en t-shirt moulant, ça fait rêver, hein, n'est-ce pas Philippe?
Je vous en prie.
Après une série de blockbusters dont Les Grands Fonds de Peter Yeat avec Nick Nolte, Jacqueline reprend sa carrière en main et se dirige vers un cinéma plus qualitatif. Elle se tourne alors vers la coproduction avec Riche et Célèbre de Georges Cukor, qui demeure sa seule expérience en la matière. Je voulais une histoire humaine, simple, qui avait des qualités psychologiques. Elle interprète également le rôle principal du film et compose là ce qui reste probablement sa meilleure performance d'actrice.
Et puis, elle tourne avec une légende.
Oui, Jacqueline Bisset excelle sous la direction de John Huston dans Au-dessus du volcan avec Albert Finet, qui vient de mourir aussi. Mais le réalisateur rayonne sur le plateau d'une présence virile et moqueuse qui n'est pas franchement du goût de la comédienne. Par contre, Jacqueline est très à l'aise avec Gérard Depardieu et Abel Ferrara dans Welcome to New York, film librement inspiré de l'affaire Strauss-Kahn. Pendant la promotion du film, elle esquive les questions liées à Anne Sinclair. Pour moi, c'est évident que je ne l'incarne pas. À plus de 70 ans, Jacqueline Bisset possède toujours une beauté radieuse. Ses yeux de chat, sa silhouette de Tanagra, son visage naturel sans retouche, c'est rare, intéresse beaucoup le jeune cinéma indépendant américain. La preuve, elle a tourné 5 films en 2018, dont Here and Now, disponible en DVD et VOD.
Et voici Jacqueline Bisset qui nous parle de physique.
Je crois déjà, bon, si on est formé dans un certain physique, si on ne fait pas attention, déjà les gens vont vous mettre dans les rôles de ce physique qu'ils connaissent. Et le public est très têtu sur certaines choses. Ils aiment, bon, ils vous trouvent avec les cheveux longs et ils vous trouvent romantique et tout. Ils veulent peut-être vous voir comme ça tout le temps. Alors il vient un moment où vous embêtez. Vous faites toujours la même chose, vous faites toujours les mêmes rôles. Vous n'avez plus le plaisir de découvrir votre travail. Moi, je me sens en espèce de compétition avec moi-même pour ne pas m'ennuyer. C'est pas, je ne suis pas ambitieuse dans le sens ou compétitif avec les autres acteurs et dans le sens du métier. Mais j'aime tellement peu les gens qui s'assoivent sur leur... how do you say? Sit on their laurels, comment on dit?
Sur leur laurier.
Sur leur laurier. Je trouve que la vie devient tellement embêtante comme ça. Et on ne s'améliore pas dans le jeu aussi. Qu'il faut constamment changer de côté.
Merveilleuse Jacqueline Bisset, que tu as bien connue, Dominique,
oui,
que tu connais bien d'ailleurs.
Je la connais bien, tu restes à chaque fois que je vais à Los Angeles, je la vois. Moi, je pense que c'est une actrice modeste et qu'elle n'imagine pas la carrière qu'elle a faite, parce qu'elle a fait une immense carrière. Et voilà, et souvent, avec Nathalie Bach, qui est très proche d'elle, elle dit, mais vis en Europe. Mais je crois qu'elle est heureuse dans son ranch.
En Californie, aller, voilà. Absolument. Eh bien, merci beaucoup Dominique Besnéard. À dimanche prochain, voici maintenant l'histoire du dimanche soir. Le récit débute en décembre. Nous sommes en Grèce et je me suis presque fait piéger. L'histoire annonce que désormais le Tour de France cycliste abandonnerait les équipes aux couleurs commerciales pour revenir à une formule d'antan où s'affrontaient dans les cols et les plaines des équipes nationales. Le narrateur poursuit et révèle que pour la prochaine édition du Tour, les organisateurs ont décidé de convier à concourir quelques nations modestes en cyclisme, dont la Grèce, et nous sommes alors invités à découvrir en conférence de presse quelques cyclistes grecs.
À l'heure convenue, les trois figures emblématiques de l'équipe grecque font leur entrée dans la pièce. On retrouve en tête Socrate, le front légèrement dégarni, l'œil malicieux, signe de son expérience. Plusieurs fois vainqueur de la Ronde des Carpates et du Tour du Péloponnèse, Socrate est le leader incontesté de sa formation. Il est suivi de son fidèle lieutenant, le musculeux Platon, ancien lutteur reconverti au cyclisme et qui sera d'une aide précieuse à Socrate quand il faudra bouffer du vent dans la plaine. Enfin, se présente Aristote, un jeune aux dents longues mais au sens tactique déjà particulièrement fin. Il s'est fait connaître l'année passée au Tour de Macédoine où il profita du marquage entre les principaux favoris pour remporter une étape de prestige. La perspective de passer la fin d'après-midi au crible des questions des journalistes n'enchante pas particulièrement Socrate. Il a roulé 5 heures en début de journée et 6 heures sont programmées pour le lendemain. Il préférerait être au massage plutôt que de se prêter au jeu des interviews. Mais il n'a pas le choix. Quand on participe au Tour, être médiatisé fait partie du job. Et puis, ce point presse hivernal n'est certainement rien en comparaison de ce qui attend les coureurs grecs en juillet.
Merci à notre ami Hervé Pochon pour la lecture de ces quelques mots qui ouvrent Socrate à vélo, livre de Guillaume Martin chez Grasset, le Tour de France des philosophes. Guillaume, je répète, vous êtes coureur cycliste, classé 21e au dernier Tour de France, une prouesse évidemment sportive, mais par ailleurs vous êtes effectivement diplômé de philosophie, un master, on y reviendra tout à l'heure. En quelques mots pour commencer, Guillaume, quelle est l'ambition portée par ce récit que vous venez de faire publier chez Grasset ?
Je dirais que l'ambition, elle était double. C'était à la fois de parler de cyclisme à un public, voilà, plutôt d'intellectuel, peut-être peu connaisseur de la chose, et puis aussi de parler philosophie à un public de sportifs. Donc vraiment, j'avais envie de mêler mes deux univers dans un livre.
Ce qu'on essaie de faire ici, en fait, vous voyez, cette mission, il est pour nous, ce livre, vous voyez,
c'est, voilà, je
quand
pense,
on l'a reçu, on s'est dit, c'est un livre pour nous. Philippe Bordas, rebonsoir, je répète, vous êtes donc écrivain, vous avez écrit un livre fantastique il y a 10 ans, et intitulé Forcené, c'est chez Folio, c'est un livre qu'il faut lire, tellement c'est merveilleux sur l'univers du cyclisme. Philippe, vous êtes un esthète, j'aimerais juste avoir votre point de vue sur Guillaume Martin, ce jeune homme de 26 ans, qui est assez atypique dans le paysage sportif français, non?
Ah oui, je suis très impressionné parce que déjà, il a réussi deux choses qui sont extrêmement difficiles. Et puis, il a tout de suite un génie de grimpeur assez visible. Et non, je suis d'autant plus impressionné qu'on a de loin le même parcours, sauf que sur les deux objectifs de la philosophie et du cyclisme, c'était un peu des objectifs de début de carrière pour moi que j'ai foiré dans les grandes largeurs. Et j'étais bon en classe, mais je me suis retrouvé en classe prépa où j'avais la mémoire des mots et de la poésie. J'étais bon en philo, mais sitôt que le devoir était fini et que je n'avais pas de mémoire des concepts, tout s'enfuyait. Et alors après, le rêve secret c'était d'être coureur cycliste et là ça a été un fiasco total. Donc j'ai en face de moi l'incarnation réussie de ce que j'aurais dû être.
De ce que vous auriez voulu être,
les dieux sont cruels.
Mais non, vous êtes devenu un excellent écrivain. Guillaume Martin, on va revenir donc sur ce mémoire de maîtrise que vous avez soutenu à Nanterre, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça, l'université de Nanterre? C'est bien ça?
C'est ça, oui.
Absolument. Donc l'intitulé, c'est « Le sport moderne, une mise en application de la philosophie nietzschéenne ».
Point d'interrogation,
très important. Est-ce qu'en quelques mots, c'est possible de nous résumer l'idée générale de votre réflexion au départ, en tout cas?
Oui, je vais essayer de le faire rapidement. C'était un peu un paradoxe, puisque c'était l'ambition d'imaginer Nietzsche en fondateur du sport moderne, ce qui est évidemment pas le cas, je le dis de suite. Mais moi, mon idée, c'était de dire que la philosophie de Nietzsche était plus cohérente avec ce que moi je vivais en tant que sportif que ne l'est l'idéologie olympique héritée de Pierre de Coubertin. Il y a cette phrase très célèbre de Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer. Moi, je suis désolé, c'est pas ça que je vis au quotidien en tant que sportif de haut niveau, et c'est pas ça que je vois chez mes collègues. Pour nous tous, l'important c'est de gagner. Et voilà, il n'y a pas de honte à le dire, c'est le principe du sport. Et alors Nietzsche est beaucoup plus en accord avec ça, puisque lui dit je ne vous conseille pas la paix, mais la victoire. Donc voilà, moi je suis parti de ces idées-là pour
et vous essayer dites de aussi, repenser le sport. Vous dites aussi que Dieu est mort et nous l'avons tous tué et qu'il faudra inventer autre chose pour la transcendance. Et c'est intéressant parce qu'il ne faut jamais oublier que cet effondrement, en Occident en tout cas, de la religion, coïncide avec l'explosion du sport-spectacle. Ça, vous avez beaucoup réfléchi à ça et c'est assez bien vu, je trouve.
Bah, je suis parti, oui, d'une analyse de la chronologie dans les grandes largeurs, et j'ai vu en effet que ce moment que vous avez mis en valeur où la religion en perdait et où le sport naissait, et puis Nietzsche était un peu au tournant, donc voilà la fin du 19e siècle. Nietzsche était un peu le révélateur de toutes ces grandes tendances. C'est lui qui annonçait la mort de Dieu, et puis donc au moment où le sport naissait, et sa philosophie est à mon avis parlante pour un sportif.
Philippe Bordas, êtes-vous aussi un peu nietzschéen finalement, parce que Les Forcenés, ça pourrait s'appeler Le Crépuscule des Idoles, pour emprunter un titre à Nietzsche. Vous commencez ce livre avec Le cyclisme n'est pas un sport, c'est un genre. Les genres déclinent et disparaissent, comme les civilisations. La tragédie classique, l'épopée versifiée, ont disparu. Le cyclisme est mort. Philippe Bordas, voilà une pensée un peu nietzschéenne. C'est pour vous, c'est un chant funèbre aujourd'hui, le vélo.
Oui, c'est-à-dire que oui, c'était un livre testament, parce que je suis arrivé à la fin d'une période où il y avait encore Bernard Hinault, qui, bon, sans du tout être féru de philo, lui dans son cas, était totalement traversé de forces invraisemblables, que j'ai vu de près, qui était vraiment toujours exagéré, et il avait vraiment un tempérament antique et une sorte de poussée permanente qui le mettait hors de lui. Donc j'ai eu la chance de vivre ça d'extrêmement près, et quand il a arrêté, j'ai donné ma démission, c'est parce que je le suivais professionnellement comme chroniqueur à L'Équipe, le journal sportif. Mais après, il faut bien dire qu'on était rentré dans un monde où le vélo était devenu une sorte d'industrie rationnelle, et surtout une industrie qui était complètement déliée du langage, c'est-à-dire que aucun langage ne pouvait plus s'appliquer à cette discipline, cet exercice. Donc le cyclisme est né non seulement... Les grandes épreuves de 600, 1200 kilomètres sont nées en 1890-91, alors que Nietzsche avait énoncé la mort de Dieu en 1882. Mais c'est surtout qu'il y a eu une disparition complète de cette folie de départ. Et surtout, il n'y avait plus de langage pour raconter un exploit. Donc il y a eu un effondrement simultané, c'est pour ça que j'ai parlé de la mort du cyclisme, c'était un petit peu funèbre effectivement, mais Hinault était le dernier exemplaire antique, et autour de lui, les derniers exemplaires de grands chroniqueurs capables de pousser un langage assez haut pour dire sa force avaient disparu aussi.
Mais ce qui est terrible en fait, Philippe, c'est que, par exemple, le western, c'est un genre cinématographique. On peut dire que le western est mort aujourd'hui, hein. Il y a des épigones, comme vous dites. Mais un gamin qui a 14 ans, par exemple, il peut redécouvrir le western aujourd'hui. Il va pouvoir s'approprier, il va voir John Wayne, Houston, John Ford. Avec le vélo, ou le sport en général, c'est plus compliqué. On ne va pas aller voir sur YouTube les exploits de Bahamontes. C'est un monde englouti en plus, quand un genre comme le vélo disparaît. Pour vous, ça doit être très triste.
C'est un sport qui est lié à l'exercice d'un langage qui lui-même est en train de disparaître. C'est-à-dire que la haute littérature a été liée au sport. Et par au sport, j'entends pas du tout le handball ou ce genre de truc, mais la boxe, le cyclisme et parfois l'alpinisme ou la voile, c'est-à-dire les moments où on était en risque mortel avec la nature. Et où il y avait un dépassement, où l'homme était toujours mis en position de lutter contre des ennemis, mais de lutter contre soi et contre les éléments que Dieu lui envoyait. On était toujours dans un récit antique d'ordalie, de lutte pour la survie. Donc il y avait un langage qui, depuis l'Antiquité, allait avec les exploits. Et aujourd'hui, ce langage qui est aussi l'essence de la littérature depuis toujours, qui est de dire la grandeur et l'effet, hein, et l'effet ou anormaux ou surhumains, eh bien en fait la surnaturalité du langage a été tellement niée qu'il n'y a plus d'équation possible entre un exploit et une grande langue.
Guillaume Martin, vous parvenez aussi à l'exploit de réconcilier Nietzsche et Flaubert dans votre récit. Racontez-nous ça, éclairez-nous, comment vous voulez réconcilier l'un et l'autre ?
Ouais, c'est une
boutade, mais c'est
boutade,
intéressant.
Oui, un amusement, non, oui. il y a cette opposition qu'on peut faire entre ces deux grands penseurs. L'un dit Flaubert que on ne peut penser qu'assis, et l'autre, Nietzsche, dit que les grandes pensées viennent en marchant. Et donc la solution pour réconcilier ces deux grands penseurs, c'est de faire du vélo, puisqu'on est sur le vélo à la fois assis et en mouvement.
Cette articulation, c'est une boutade, mais la question qu'on voudrait vous poser immédiatement, c'est effectivement, est-ce qu'en étant dans des grandes compétitions assis en marchant, est-ce que la philosophie aide le champion cycliste ? Ou alors, est-ce qu'il n'est pas là, ce n'est pas le moment de penser ? Ou est-ce que quand on fait le Tour de France, on est soutenu par la philosophie ?
Non, ça, je pense que c'est un mythe, le fait que la philosophie soit une recette miracle pour être plus performant. C'est vrai pour le cyclisme, mais je crois assez malheureusement dans la vie de tous les jours, je suis pas certain que la rationalité et donc la philosophie soit d'un grand secours face aux tragédies du quotidien. Donc, moi, je pense que dans le sport, ce qui parle beaucoup plus, c'est l'instinct. Et donc, si dans une situation de course, je me mets à analyser philosophiquement les choses, voilà, c'est trop tard, l'échappée est partie ou le sprint est lancé et moi, je suis encore sur place,
à la traîne. On parle de grimpeurs, vous faites des analogies, vous parlez de Zarathustra, par exemple, vous dites que c'est un grimpeur, c'est une sorte de Bahamontès, t'es un grand champion cycliste, Bahamontès, un grimpeur. En quoi Zarathustra peut être comparé à Bahamontès ? Pourquoi c'est un grand grimpeur, ce Zarathustra ?
En effet, dans le cyclisme, je pense que c'est pour ça aussi que c'est un sport qui attire tant les intellectuels, les écrivains, c'est qu'il y a vraiment cet aspect épique, presque romantique, et donc Zarathustra peut être tout à fait rapproché de ça. Donc c'est ce héros nietzschéen qui ne cesse de monter et descendre de sa montagne dans le livre éponyme. Et donc, on peut tout à fait le comparer à Bahamontès ou à d'autres grands grimpeurs célèbres qui font tout simplement la même chose, grimper, monter. Et cet art de simplement se porter par la force de ses mollets en haut des sommets, redescendre parmi la foule, c'est l'essence du cyclisme.
18h34 sur Inter, on va continuer à parler de philosophie et de vélo. C'est l'heure de l'orchestre pour l'instant. On est ce soir par Hervé, un nouvel arrivant. Il a 26 ans, Besnier l'adore. Le titre joué ce soir, Va piano, ainsi soit-il.
Y'a pas de courage sans peur. Je serre les dents, je serre les dents. Quand c'est le temps qui prend, je fais un piano. Le passé vient frapper comme une gauche, serre les dents. Le corps qui d'un coup se désaccorde, va piano. Toujours sourire, toujours sourire. Serre les dents, resserre les dents. Toujours sourire, toujours sourire. Va piano, ouais, va piano. Va piano. sourire, toujours sourire. Serre les dents, resserre les dents. Toujours sourire, toujours sourire. Va piano, va piano. Toujours sourire, toujours sourire. Serre les dents, resserre les dents. Toujours sourire, toujours sourire. Va piano. Va piano.
Sorti du peloton, avec Platon dans sa roue, Aristote n'est pas loin, les philosophes à l'attaque sur le Tour de France.
L'œil du tigre.
Il a la notoriété discrète. Pourtant, du haut de ses 24 ans et pour son premier Tour de France, Guillaume Martin est au centre de toutes les attentions. Diplômé d'un master de philosophie à l'université de Nanterre en 2014, le coureur de Vanti Groupe Gobert dénote dans le peloton.
Philippe Collin.
Ah oui, on vous a pas dit, le Normand Bac plus 5 est sûrement le seul pro à écouter des émissions de philo quand il s'entraîne.
Quelle est la différence entre le sport et la philosophie ?
Tel un Platon, du peloton.
Sur France Inter.
Le vélosophe. Néologisme inventé par un de nos invités du soir, Guillaume Martin, coureur cycliste professionnel, il a 26 ans. Et il s'est classé 21e sur le dernier Tour de France en juillet. Ce n'est pas rien, loin s'en faut. Et il est aussi diplômé de philosophie, master décroché à l'université de Nanterre. Mais bien sûr, il n'est pas le seul à penser le sport à l'aune des philosophes. Voici Denis Moreau, intellectuel français, à l'écoute de son corps dans l'effort.
Comme vous l'avez vu, moi j'ai pas un corps pour faire de l'alpinisme, ni même un corps pour faire l'ultra-trail. Et pourtant je fais de l'alpinisme et j'ai fait de l'ultra-trail. Ça veut dire que le corps a des capacités qu'on ne peut découvrir et connaître qu'en le portant à des situations qu'il n'a pas l'habitude de connaître, et c'est à ce moment-là qu'on voit ce qu'il peut. Pendant la première moitié de la course, qui est très longue, qui dure des dizaines d'heures, plusieurs dizaines d'heures, il y a une première phase dans laquelle on est, je pense, spinoziste. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de lien qui unit le corps et l'esprit, et on avance d'un seul tenant, en quelque sorte. Et puis la fatigue venant, les heures passant, il y a une dissociation qui fait qu'on devient cartésien. Il y a l'esprit et le corps, et l'esprit, le mental, comme disait le sportif, qui se met à parler au corps, qui lui donne des ordres, qui essaie de le comprendre en même temps, qui l'écoute, mais qui se montre assez autoritaire avec lui. Je me souviens, lors d'une dernière montée, un col qui me paraissait interminable, j'ai dit, consciemment, j'ai dit à mon corps, si tu m'aimes, suis-moi. Ce qui est une phrase débile, mais en fait, il a suivi.
Si tu m'aimes, suis-moi. Guillaume Martin, est-ce qu'il vous est arrivé l'été dernier, par exemple, dans un col un peu difficile, de vous dire ça et de dire ça à votre corps, un dialogue entre le corps et l'esprit, si tu m'aimes, suis-moi. Je vous pose la question parce que j'ai beaucoup, beaucoup regardé le vélo adolescent et adulte. Et c'est vrai qu'il y a des étapes où on sent que la montagne est lourde, hein, et on se dit, mais à quoi pense le coureur cycliste dans sa tête ? C'est un moment difficile, voilà, c'est une pente qui est très dure. À quoi pense-t-il le coureur cycliste ?
Ben moi, en fait, je serais un peu en désaccord avec Denis Moreau sur ce point, parce que je pense pas que l'esprit puisse commander encore au corps. Je pense que dans le sport, il y a une sorte de mythe du mental. On dit c'est dans la tête, il suffit de le vouloir. Mais moi, en tout cas, ce dont je fais l'expérience, c'est pas un bouton on-off le corps. C'est pour moi le corps est premier. C'est lui qui décide.
Et si le corps ne suit pas, c'est foutu.
Je veux dire, ce serait trop simple dans ce cas-là. Ce serait pas la peine que je m'entraîne si tout était dans la tête. Donc et justement en troisième semaine de tour, dans des moments particulièrement difficile dans des cols. Enfin voilà, j'ai connu des moments difficiles en troisième semaine de tour. J'avais beau me dire, essaye d'appuyer plus fort. J'avais beau me dire, bon bah, t'as fait de la philosophie, t'as étudié les stoïciens, la douleur n'est rien. Eh ben, si quand même, c'est pas pour ça que j'avançais plus vite. Donc je crois que c'est quand même le c'est en cela que je suis nietzschéen. Je crois que c'est le corps pense et le corps est premier.
Philippe Bordas, puisqu'on parle de limites du corps, d'expérience de la souffrance, d'un point de vue même voilà, physique et aussi philosophique, et j'aimerais que vous nous racontiez une histoire qui ouvre quasiment forcené chez Folio, qui est ce moment fou dans la vie de Jacques Anquetil, hein, qui est un immense champion, un quintuple vainqueur du Tour de France, bien sûr, où on lui propose d'enchaîner deux courses majeures sans dormir, enchaînant l'une et l'autre, à savoir le Dauphiné libéré et le Bordeaux-Paris. Racontez-nous cette histoire incroyable d'Anquetil qui va jusqu'au bout de lui-même, finalement.
Oui, en fait, c'est une histoire qui pourrait reprendre les catégories de Nietzsche qu'il a définies dans sa jeunesse du dionysiaque et de l'apollinien, c'est-à-dire entre l'excès baroque, la démesure, et la rationalité et la pesée de tous les actes. Anquetil était l'homme apollinien par excellence, aurait dit Nietzsche. Il gérait toute sa carrière en mesurant à la minute, à la seconde, toutes ses victoires. Il était assez glacial et d'une sorte d'économisme pesant. Et son directeur sportif, qui lui était un être de langage et de démesure, Raphaël Gemignani, a décidé de le faire basculer de ce bord apollinien vers la folie dionysiaque et lui a proposé, enfin il a d'abord proposé à sa femme d'essayer de manipuler son mari pour qu'il fasse le plus grand exploit du vélo. Et de fait, il a passé une semaine à guerroyer contre Poulidor par un temps exécrable dans les montagnes. Poulidor était très très fort. Anquetil avait un point de bronchite et d'angine, a réussi à le battre. Et à peine arrivé dans un état d'épuisement total, j'ai oublié où c'était, je crois que c'était je sais plus si c'était Carpentras, je me souviens pas. Le général de Gaulle, passionné par cette folie parce que il fallait de l'aide.
La folie étant d'enchaîner les deux courses. Hein,
voilà, donc avait mis un avion à disposition. Ils sont partis à 140 à l'heure vers l'aéroport juste après la course. Anquetil a mangé un tout petit peu dans l'avion. Il est arrivé à 1h du matin à Bordeaux. Pour enchaîner avec une course qu'on appelle la course qui tue, ça n'existe plus, on l'appelait la course qui tue, c'était presque 600 km d'une traite. Et il y avait une partie à faire dans la nuit entre 1h du matin et 6h du matin, quel que soit le temps. Et là, vous arriviez à Poitiers où il y avait des énormes personnages ventrus qui conduisaient des motos qui pétaradaient, derrière lesquels vous vous mettiez comme des petits asticots pour rallier Paris à 70 à l'heure. Donc Anquetil était complètement brisé. Et le matin, quand il faut arriver devant les gros entraîneurs, il est déjà complètement mort, il est déjà monté dans la voiture. Et Gemignani est rentré dans la voiture et l'a vraiment insulté pour le réveiller. Et Anquetil, qui fonctionnait comme ça, est sorti de la voiture. Il était tout blanc, il était livide et il a quand même décidé de faire la course. Et puis peu à peu, toute la France qui n'aimait pas trop Anquetil commence à prendre goût à cette histoire-là. Tout le monde écoute la radio, tous les gens se sont endormis le soir, avaient mis le réveil, parce que c'est quelque chose qui s'est passé dans toute la France. Et au petit matin, on entend Anquetil est là, Anquetil est toujours là. Et alors qu'il n'avait jamais suscité la moindre explosion de joie, quand il est arrivé pour finir la course et traverser la vallée de Chevreuse derrière sa moto, dans la côte de Châteaufort, il y avait une file indienne sur les deux côtés d'êtres humains, quasiment jusqu'à Paris, qui l'acclamait. Et il a réussi à gagner et il s'est effondré en larmes. Mais il était sorti de la mesure. Et là, c'est très étrange parce que c'est rare dans une carrière qu'on bascule ainsi d'un extrême à l'autre. Et ça reste l'exploit le plus difficile.
Et Anquetil ne pleurait pas, ne pleurait jamais. Mais tout d'un coup, là, il se lâche dans les larmes.
Voilà,
en fait.
Voilà.
Et donc, ça crée le personnage qu'on finit par aimer, Anquetil.
Voilà. En fait, le vélo n'est autant aimé que quand il verse dans le dionysiaque, le nietzschéen le plus débridé. Et aujourd'hui, ce qui fait que moi j'avais considéré que le cyclisme était mort, c'est que les équipes qui à l'époque, la plus terrible dans les années 90, avaient rationalisé le dopage, avaient justement éliminé toute la partie de démesure de baroque du vélo, parce que ça gênait pour la victoire, ça gênait pour la publicité. La télévision et les journaux avaient même développé des langages complètement morts et désarticulés pour dire ces non-exploits. Donc c'était en fait aussi, on pouvait analyser le vélo comme Guillaume de façon nietzschéenne. Je ne sais pas ce qu'il en pense lui, moi je l'ai vécu comme ça.
Guillaume ?
Oui, bah c'est sûr qu'il y a cette tendance dans le cyclisme aujourd'hui à vouloir rationaliser les choses. Enfin, c'est une tendance générale du sport de tout professionnaliser de plus en plus. La science s'est emparée du sport. Mais après, j'essaie de garder une pointe d'optimisme et je pense que dans l'essence du sport, persiste cette dimension de folie de dionysiaque. Et même si avant, peut-être la balance était 70%, 30%, peut-être que maintenant c'est 99% de contrôle, 1% de folie.
Mais
c'est encore possible. Oui. Et on voit dans le vélo qu'il y a encore, sur une course de 3 semaines, peut-être que 21 étapes, il y en a 20 qui sont contrôlées et c'est finalement le scénario attendu qui se passe, mais il y en a toujours une. Où il se passe vraiment quelque chose d'extraordinaire et c'est pour ça que je pense que les spectateurs regardent le Tour de France pendant 3 semaines. C'est pour ce moment où tout explose.
Il y a une épreuve particulière dans le Tour de France qu'on appelle le contre-la-montre, qui est une épreuve individuelle contre le chronomètre, où d'ailleurs vous faites une allusion à l'exhortation socratique « Connais-toi toi-même », puisqu'on est seul face à ce chronomètre et à sa route. J'ai lu que votre père vous avait élevé à vivre contre la montre. Est-ce que c'est vrai ça ou pas, quand vous étiez gamin ?
Oui, c'est vrai que c'est peut-être ça qui a aiguisé mon instinct de la compétition. Moi j'habitais en campagne, par exemple le courrier donc il était 100 mètres plus loin de la maison
pour aller chercher
la boîte aux lettres, et donc il me disait peux-tu aller chercher le courrier, ce à quoi je répondais non, je vois pas pourquoi. Et alors là il me disait t'es pas capable d'y aller en moins de 30 secondes, et alors là j'étais allé en courant. Donc oui, il y avait cet instinct de compétition dans la famille, ou en tout cas qui s'est développé comme ça. Après, vous parlez de contre-la-montre, c'est pas ça qui m'a rendu très très bon en contre-la-montre. C'est pas ma spécialité. Je suis plutôt grimpeur.
Un vrai grimpeur. Dans le livre, Guillaume, vous racontez beaucoup votre quotidien aussi, vos séances d'entraînement qui ont l'air, franchement, de mon point de vue, terribles. Ça a l'air très très dur. Enfin, physiquement, on sent que le corps souffre. Et vous y allez jusqu'où ? C'est un vrai professionnel, donc vous travaillez beaucoup cet entraînement. Et alors, vous écoutez les podcasts de France Culture, Les Chemins de la Philosophie, qui vous accompagnent tout au long de vos entraînements. Mais vous racontez aussi parfois que l'effort est tel que vous perdez le fil, parce que c'est trop compliqué à la fois d'assimiler ce que vous entendez dans le casque, et puis vous préparer physiquement. Mais vous dites, c'est pas très grave en fait, finalement. Tout d'un coup, l'esprit peut aussi lâcher la bride et le corps prend le relais.
Oui, voilà. Parfois, c'est peut-être juste une berceuse. Alors peut-être que inconsciemment, je me nourris quand même de ce que j'entends. Mais bien évidemment, quand je suis dans des intensités extrêmes à l'entraînement, je me déconnecte un peu de ce que j'écoute. Et puis évidemment que j'ai toujours une attention pour la sécurité routière, pour le
et votre sécurité à vous, votre intégrité physique aussi. Oui, c'est ça.
Oui, voilà,
bien sûr, absolument.
Mais c'est sûr que oui, parfois on fait quand même des sorties vraiment longues, jusqu'à 6-7 heures. Donc
les podcasts,
parfois,
c'est utile.
Parfois en groupe, mais les podcasts sont utiles. L'œil du tigre y compris.
Ah, c'est très gentil, merci beaucoup. Philippe Bordas, je sais que vous êtes triste que le cyclisme soit mort, ça se voit sur votre visage. On voit vous porter le deuil de ce décès du cyclisme.
Non, je regarde quand même toutes les courses parce que je suis un vicieux.
Ah oui, quand même, évidemment. Mais est-ce que cette transcendance... En fait, vous cherchez un peu de la transcendance dans le vélo, vous cherchez un peu à échapper à la mort quelque part. Est-ce que vous avez trouvé ça ailleurs dans d'autres sports ? Est-ce que la transcendance que vous recherchiez dans le cyclisme... Le héros antique, le sportif antique, est-ce que vous l'avez retrouvé ailleurs ou finalement ça a disparu, ça ?
Non, ben, j'ai pas l'expérience, mais bon, moi j'ai toujours beaucoup aimé la boxe, mais c'est complètement différent. Mais c'est vrai que les grands alpinistes et ceux qui font la voile en solitaire vivent des choses qui sont quand même impressionnantes. C'est-à-dire que c'est extrêmement facile pour les gens d'imaginer que bien entraîné, on peut tenir un match de foot de 2 fois 45 minutes. Je pense que personne n'a l'idée de la douleur qu'il faut encaisser faire une course de 6-7 heures et mettre l'effort maximum dans les dernières 10 minutes quand c'est une arrivée en côte, ou etc. Et c'est ce à quoi Guillaume se prépare. Ça nécessite des explications infinies qu'on n'a pas le temps de donner. Du coup, les jugements qu'on donne sur le sport vu de l'extérieur sont un peu aléatoires. Donc moi, je continue à faire du vélo pour maintenir ma compréhension lointaine et inférieure de ce que sont les champions. C'est-à-dire que je garde mon amour du vélo sans passer par l'actualité. Mais
par la pratique.
Dans la pratique,
je roule
je roule avec des mecs qui sont vraiment forts, donc je mesure la différence, mais c'est pas pour voir où j'en suis. Parfois, je me suis entraîné pour être juste le dernier à être lâché dans une côte, mais juste pour être au premier rang, pour voir démarrer le meilleur. Pour moi, ça a toujours été un plaisir. Donc, je garde l'amour du vélo, mais qui est devenu un exercice séparé, en fait. C'est vrai, c'est comme quelqu'un qui chantonne un vieux morceau de Bach, quoi. J'en suis là, hein. C'est triste. Hein. Non,
non. Guillaume Martin, j'ai vu que vous aviez aussi écrit une pièce de théâtre dont j'adore le titre, Platon versus Platoche. Alors, j'ai pas compris quel était l'objet, j'ai pas pu voir la pièce ni la lire, donc je ne sais pas. J'ai cru comprendre que c'était une manière d'aider Platini à assumer ses frustrations intellectuelles. Est-ce que c'est vrai ou pas du tout? C'est quoi cette pièce de Platon versus Platoche?
Non, pas tout à fait. Il y a une allusion à Platini, dont le surnom était Platoche.
Et Platoche, bien sûr.
Mais c'est quand même pas le sujet central de la pièce, qui sera jouée d'ailleurs à Avignon en juillet prochain.
Donc très bien, extra, bravo.
Un tour là-bas. Mm-hmm. Et donc non, c'est plutôt centré autour de la figure de Platon, mm-hmm. Du philosophe Platon.
Bien sûr, bien sûr.
Et de ses frustrations à lui, que j'imagine en tout cas, puisque je l'ai pas rencontré. Mais j'essaye de présenter Platon, donc voilà, grand intellectuel reconnu dans la cité athénienne, comme un personnage qui, au fond de lui, rêverait justement de ne pas être seulement un intellectuel, mais d'être aussi dans l'action, dans la vie pratique. Donc, par exemple, de mettre ses théories politiques en pratique. Il a beaucoup critiqué l'art, mais peut-être parce que lui rêvait d'être lui-même un artiste. Peut-être rêvait-il aussi d'être un sportif. Il y a des éléments biographiques connus de sa vie qui laisse penser qu'il a été lutteur. Donc voilà, ça tourne autour de tout ça avec humour, bien sûr.
Ben, Platon versus Platoche, que vous pourrez voir donc à Avignon au mois de juillet cet été. En tout cas, merci à vous deux d'être venus ce soir. Et je rappelle donc Socrate à vélo, signé Guillaume Martin, sous édition Grasset. Et puis dans la foulée, Dévoré aussi, Forcené, livre jubilatoire sous la plume de Philippe Bordas, disponible aux éditions Folio. Merci à vous deux. Ne quittez pas l'écoute, car voici le retour du Give Me Five.
L'œil du tigre.
Rebonsoir Joy.
Rebonsoir Colin, rebonsoir à tous.
Alors ce soir on commence avec un big up, j'imagine.
Ah ouais.
Ben oui, forcément.
C'est tellement prévisible. Ça, et oui, un big up à Cristiano Ronaldo qui a quasiment qualifié à lui tout seul la Juventus de Turin pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en mettant tout simplement 3 buts.
À lui, voilà. Tout seul, en effet.
Un immense joueur, ce Cristiano. C'est quand même toujours un kiff absolu de le voir balle au pied. Donc Ronaldo a toujours dit qu'il espérait bien être sur les terrains jusqu'à 40 ans. Et on l'espère aussi. Mais alors après quoi? Eh bien, rassurez-vous. Cette semaine, CR7, c'est son surnom, nous a dévoilé ses projets. Et en bon businessman qu'il est, alors il a déjà une chaîne d'hôtels, des sous-vêtements ou des parfums à son nom. Bref, Cristiano a déclaré cette semaine qu'il allait investir dans une clinique d'implants capillaires. Voilà. Vous avez bien entendu, dans une interview à ABC, le quintuple Ballon d'Or a expliqué être passionné par la santé, la technologie et la recherche. Donc sa clinique d'implants capillaires ouvrira le 18 mars prochain à Madrid et devrait être entièrement gérée par Georgina. Georgina, c'est sa femme.
D'accord.
Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano. Voilà, Colin, est-ce qu'elle est pas bien, mon enfant?
On va surtout retenir que c'est un très grand joueur de football qui a fait un exploit incroyable avec la Juve mercredi soir.
Bah, pour moi, tu le sais, c'est même le plus grand actuellement.
Absolument. Hein, Ligue des Champions, toujours du côté de Paris cette fois.
Ah oui. Eh ben, le PSG a encore été éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions. Je dis ça, je ne dis rien, face à Manchester United. Et dans le même temps, Thiago Silva, le défenseur brésilien du club de la capitale, a obtenu la nationalité française, voilà. 6 ans que sa femme et ses 2 enfants vivent avec lui à Paris. et ils sont très heureux de l'aveu de Thiago sur les réseaux. Donc voilà, Thiago Silva est français, mais toujours loin, très loin du sacre européen.
Oui, très très loin. Et tu veux aussi nous parler d'un homme politique ce soir?
Oui, parce que quand on est homme politique, Colin, ministre hein, par exemple, eh bien on a le droit d'avoir des activités extra-politiques. Food, golf, dance floor, voilà. Et c'est le cas de Boyko Borisov, le premier ministre bulgare, bon joueur de foot, hein, qui s'adonne régulièrement à sa passion en championnat vétéran et qui a, ce jeudi, fait vibrer toute la Bulgarie en inscrivant un but sur coup franc direct.
Incroyable.
Voilà. Avec son équipe de Vitosha Bistrista. Voilà, voilà. Bistrista a gagné le match 2-1 grâce donc au premier ministre du pays. Bravo Boyko.
Mais bravo Boyko. Moi, je suis allé voir le but sur YouTube. C'est incroyable. Premier ministre, un coup franc hallucinant.
Gardien n'était pas non plus énorme en
France. Oui, mais d'ailleurs assez adroit quand même, ce premier ministre bulgare, voilà. Borisov. Quoi d'autre, Joy?
Ce week-end, la saison de Formule 1 a débuté hein, avec le Grand Prix d'Australie.
À Melbourne, oui.
Voilà. Comme tous les ans, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que mon film préféré sur le sujet, peut-être le seul que j'ai vu, c'est Weekend of a Champion de Polanski. Et donc, oui, regardez-le. Mais cette fois, je me dois aussi de vous conseiller de regarder une série hallucinante que vient de produire Netflix. Ça s'appelle Drive to Survive. Conduire pour survivre. Alors ça rime pas en français du coup, bon voilà. C'est une série documentaire sur le monde de la F1 tournée en immersion vraiment via tous les corps de métier, donc c'est assez hallucinant. C'est vraiment la Formule 1 vue de l'intérieur. Donc les néophytes découvriront par exemple, enfin, en tout cas moi c'était mon cas, Günther Steiner, je pense qu'on dit comme ça, le manager haut en couleur de l'équipe Haas, ou le pilote australien Ricciardo qui va ouvrir carrément les portes de sa maison. Et puis alors après, les passionnés de bolide, eux, seront ravis de voir les coulisses hein, plus technique de ce milieu qu'ils aiment déjà tant. Donc voilà, Drive to Survive sur Netflix, gratuit pendant un mois quand vous allez vous commencer à vous abonner.
Et vous pouvez vous désabonner ensuite pour que ce soit gratuit. C'est important de le redire.
Parce que les gens râlent, c'est ça?
Oui, les gens râlent bien un sûr. Petit peu qu'on fasse la promotion de Netflix. Et pour finir, mais on peut s'abonner un mois puis se désabonner. Du coup, c'est gratuit.
Un mois gratuit.
Exactement. Et pour finir, je vais te conseil culturel du jour.
Eh bien, c'est un roman. Les gens ne râleront pas, Colin. C'est bien. C'est un roman d'Emmanuel Ruben qui a paru début mars aux éditions Rivage, qui s'appelle Sur la route du Danube. Alors là, voilà, avec Philippe et Guillaume, on a parlé vélo toute l'émission. Alors, à la base, moi, c'est pas mon truc, mais du coup, on continue. Mon conseil culturel du jour boucle la boucle. Puisque Sur la route du Danube raconte l'histoire de deux amis, en fait, qui remontent le Danube à vélo en 48 jours, d'Odessa, hein, en Ukraine, à Strasbourg. Donc, c'est un livre fleuve où l'on découvre l'Europe. Alors, une Europe évidemment marquée par l'histoire et toutes les guerres historiques, mais aussi par Hugo Pratt, par la culture, par des chansons serbes, et surtout une Europe vivante, une Europe habitée et racontée par deux Français. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'Emmanuel Ruben, hein, à la base, n'est pas un cycliste visiblement suraguerri, sauf si faire du vélo dans le Vercors à 13 ans, ça compte, parce qu'il comptait noter vraiment dans un petit carnet ses impressions jour après jour. Puis en fait, il s'est rendu compte en 48 étapes, tous les soirs, là, que c'est fatigant. Il s'est couché épuisé, il n'a pas écrit du coup une seule ligne pendant son périple. Ce qui fait que Sur la route du Danube, ce n'est vraiment pas le carnet de bord d'un cycliste, mais un roman, et le roman d'un géographe, d'un artiste, d'un écrivain. Et ça fait que c'est vachement bien.
Et voilà. Ça s'appelle Sur la route du Danube, donc.
Exactement.
C'est bien ça, d'Emmanuel Ruben, paru aux éditions Rivage. Merci, Joy.
De rien, quoi.
Et à la semaine prochaine. Bye. Salut. Et voilà, c'est la fin de cette 28e émission de notre saison 4, coachée bien sûr par l'incontournable H2M. Henri et Marc Mutel, merci Marco, assisté ce soir à la technique de Juliette Delperroux, merci à elle, merci à toute l'équipe de L'Œil du Tigre, Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi, Thierry Dupin pour les scuds et Loïc Saulnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine avec une histoire du ski alpin. Deux invités, un historien des sports d'hiver et un champion olympique du Super G. Souvenez-vous de Franck Picard. Oui, Franck Picard, surnommé Top Gun, médaille d'or aux Jeux Olympiques de Calgary en 1988. D'ici là, passez une excellente soirée, une excellente semaine. On vous attend dimanche prochain dans L'Œil du Tigre à 18h sur Inter. Salut et fraternité.